RT et de l'ordre public mettaient leur face de marbre aux prunelles vides, il finit par s'absorber dans le spectacle du rideau de soie verte qui cachait la fresque représentant Louis-Philippe prêtant serment à la charte. Cependant, le secrétaire s'était assis. Le brouhaha continuait dans la salle. Le président, sans se presser, feuilletait toujours des papiers. Il appuya machinalement la main sur la pédale de la sonnette, dont la grosse sonnerie ne dérangea pas une seule des conversations particulières. Et, debout au milieu du bruit, il resta là un moment à attendre. « Messieurs, commença-t-il, j'ai reçu une lettre. » Il s'interrompit pour donner un nouveau coup de sonnette, attendant encore, dominant de sa figure grave et ennuyée le bureau monumental qui étageait au-dessous de lui ses panneaux de marbre rouge encadrés de marbre blanc. Sa redingote boutonnée se détachait sur le bas-relief placé derrière le bureau, où elle coupait d'une ligne noire les péplums de l'agriculture et de l'industrie aux profils antiques. « Messieurs, reprit-il lorsqu'il eut obtenu un peu de silence, j'ai reçu une lettre de M. de Lamberton dans laquelle il s'excuse de ne pouvoir assister à la séance d'aujourd'hui. » Il y eut un léger rire sur un banc, le sixième en face du bureau. C'était un député tout jeune, 28 ans au plus, blond et adorable, qui étouffait dans ses mains blanches une gaieté de jolie femme. Un de ses collègues, énorme, se rapprocha de trois places pour lui demander à l'oreille « Est-ce que Lamberton a vraiment trouvé sa femme ? Contez-moi donc ça, la rouquette. » Le président avait pris une poignée de papier. Il parlait d'une voix monotone. Des lambeaux de phrases arrivaient jusqu'au fond de la salle. « Il y a des demandes de congés, M. Blachet, M. Buquin-le-Comte, M. de la Villardière. » Et pendant que la chambre consultée accordait les congés, M. Kahn, las sans doute de considérer la soie verte tendue devant l'image séditieuse de Louis-Philippe, s'était tourné à demi pour regarder les tribunes. Au-dessus du soubassement de marbre jaune veiné de lac, un seul rang de tribunes mettait d'une colonne à l'autre des bouts de rampes de velours amarantes. Tandis que, tout en haut, un lambrequin de cuir gaufré n'arrivait pas à dissimuler le vide laissé par la suppression du second rang, réservé aux journalistes et au public avant l'Empire. Entre les grosses colonnes jaunies, développant leurs pompes un peu lourdes autour de l'hémicycle, les étroites loges s'enfonçaient, pleines d'ombre, presque vides, égayées par trois ou quatre toilettes claires de femmes. « Tiens, le colonel Joblin est venu, » murmura M. Kahn. Il sourit au colonel qui l'avait aperçu. Le colonel Joblin portait la redingote bleu foncé qu'il avait adoptée comme uniforme civil depuis sa retraite. Il était tout seul dans la tribune des questeurs, avec sa rosette d'officier, si grande qu'elle semblait le nœud d'un foulard. Plus loin, à gauche, les yeux de M. Kahn venaient de se fixer sur un jeune homme et une jeune femme, serrés tendrement l'un contre l'autre dans un coin de la tribune du Conseil d'État. Le jeune homme se penchait à tout moment, parlait dans le cou de la jeune femme qui souriait d'un air doux, sans le regarder, les yeux fixés sur la figure allégorique de l'ordre public. « Dites donc, Béjuin, » murmura le député en poussant son collègue du genou. M. Béjuin était à sa cinquième lettre, il leva la tête effarée. « Là-haut, tenez, vous ne voyez pas le petit Descorail et la jolie Madame Bouchard ? Je parie qu'il lui pince les hanches, elle a des yeux mourants. » Tous les amis de Rougon se sont donc donné rendez-vous ? Il y a encore là, dans la tribune du public, Madame Coreur et le ménage Charbonnel. » Un coup de sonnette plus prolongé retentit. Un huissier lança d'une belle voix de basse « Silence, messieurs !» On écouta. Et le président dit cette phrase dont pas un mot ne fut perdu. « Monsieur Kahn demande l'autorisation de faire imprimer le discours qu'il a prononcé dans la discussion du projet de loi relatif à l'établissement d'une taxe municipale sur les voitures et les chevaux circulant dans Paris. » Un murmure courut sur les bancs et les conversations reprirent. M. Larouquette était venu s'asseoir près de M. Kahn. « Vous travaillez donc pour les populations, vous ?» lui dit-il en plaisantant. Puis, sans le laisser répondre, il ajouta « Vous n'avez pas vu Rougon ? Vous n'avez rien appris ? Tout le monde parle de la chose, il paraît qu'il n'y a encore rien de certain. »